Souvenez-vous, c'était il y a 11 ans, 5 pays émergents décidaient de former les BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Un demi-siècle après la conférence de Bandung, le Sud en plein essor lançait aux pays riches un message clair. L'ordre international imposé par l'Occident au lendemain de la Seconde Guerre mondiale devait changer et le pouvoir économique basculer du côté des anciens non-alignés. Aujourd'hui, la pandémie a-t-elle mis fin à ses rêves de puissance? Comment le Covid transforme-t-il le monde émergent? Voilà les questions qui vont nous occuper cette semaine. Merci d'écouter France Culture et bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Notre voyage en terre émergente commence aujourd'hui en Asie et pour nous accompagner dans ce périple, nous avons le plaisir d'accueillir deux économistes, Jean-Joseph Boileau, spécialiste de l'Inde et de la Chine, et Bei Shu, en charge de la zone Asie à la Société Générale. En fin d'émission, le journal de l'Écho vous sera présenté comme à l'accoutumée par Xavier Martinet. Jean-Joseph Boileau et Bei Shu, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous depuis chez vous. Alors la Banque mondiale a publié un rapport sur les perspectives économiques au mois de juin et selon elle, les pays émergents et en développement vont payer un lourd tribut à la crise du Covid. La pandémie risque d'être pour ces pays une épreuve bien plus lourde de conséquences que la crise financière de 2008, Jean-Joseph Boileau.
Écoutez, c'est toujours un peu étrange de devoir rappeler que les institutions internationales se trompent quand même assez souvent. Deuxièmement, c'est pas du tout ce que dit le rapport du FMI quelques mois après, en octobre, dans ses prévisions. Et enfin, c'est toujours la même confusion entre qui va payer la crise au plan mondial. On sait que ce sont les pauvres, pour l'essentiel, les gens précaires, etc. Et que par contre, si on prend les émergents en tant que tels, en termes de groupes de pays, les BRICS dont vous avez parlé tout à l'heure, alors évidemment, ce que dit la Banque mondiale est assez faux. C'est le contraire qui est en train de se produire, comme je le disais dans cette chronique pour Alternative économique la semaine dernière. En réalité, les émergents vont dépasser 60% du PIB mondial à l'occasion de cette crise du Covid. Et même en dehors de la Chine, l'ensemble du groupe pays émergents va connaître une croissance double de celle des pays occidentaux. Donc en fait, on a véritablement là la fin d'une ère qui est celle annoncée effectivement à Bandung en 1955, comme quoi il faut du temps.
Mais alors il faut tout de même souligner l'impact de la chute du commerce international, de l'effondrement du tourisme, de la fuite des capitaux, et évidemment de la baisse des prix des matières premières. Tout cela joue évidemment sur les économies émergentes et en développement, Bei Shu.
Ce que je veux dire, c'est que cette crise frappe aussi bien les pays développés que les émergents. Et lorsqu'on regarde les pronostics de croissance, donc je répète un peu ce que Jean-Joseph vient de mentionner tout à l'heure, avec des chiffres, c'est-à-dire on a aujourd'hui une pronostic de croissance pour les pays émergents qui est à moins 3,3% pour cette année, alors que pour les pays développés, on est à quelque chose de proche de moins 6%. Donc une contraction plus forte dans les pays développés, conséquence de cette crise-là. Évidemment, cette crise donc sanitaire frappe l'ensemble de la planète. Et ensuite, lorsqu'on regarde sectoriellement parlant et géographiquement parlant, et là, on voit une hétérogénéité en ce qui concerne la gestion de la crise, en ce qui concerne les réponses apportées par les gouvernements. Et donc, on voit qu'il y a des régions qui sortent un peu mieux que d'autres.
Alors justement, nous, on va s'intéresser aujourd'hui aux économies asiatiques. Et pour cela, il faut d'abord se pencher sur la gestion de la crise sanitaire dans la région. Or, ce que l'on observe, c'est que l'Europe et l'Amérique du Nord représentent un décès sur deux du Covid-19 dans le monde, contre seulement un décès sur cinq en Asie. Comment est-ce qu'on explique un tel écart, Jean-Joseph Boileau?
Alors, l'Asie, c'est une notion un peu bizarre parce que vous savez que pour les Nations Unies, elle va jusqu'à la Turquie. En fait, il y a, si vous prenez les données de mortalité, et j'ai étudié ça sérieusement ce matin grâce à vous, il y a une hétérogénéité à l'intérieur même de ce qu'on appelle l'Asie. Vous avez par exemple la Mongolie, il y a zéro mort, le Bhoutan, il y a zéro mort. Et en gros, pour faire simple, on va grouper en quatre zones ou sous-zones. D'une part, moi, ce que j'appelle le monde confucianiste, donc l'Asie du Nord-Est, dans lequel vous avez le Japon, la Chine, etc. Ça va jusqu'à Taïwan, en gros, la Corée. Ce sont des despotismes orientaux plus ou moins brutaux et qui ont aussi, pour des raisons génétiques, il faut faire très attention. Il y a un facteur génétique, il y a un facteur climatique et il y a un facteur gestion de la crise, n'est-ce pas? Là, il y a des phénomènes évidemment géographiques, climatiques qui vont jouer et un type de réponse qui va faire que j'ai de la famille qui vit en Chine aujourd'hui, on ne porte même plus de masque. Ensuite, vous avez l'Asie du Sud-Est et l'Asie du Sud-Est. En Thaïlande, il n'y a pas grand-chose, 0,8, mais par contre, si vous avez aux Philippines, en Indonésie, vous atteignez déjà des taux qui sont aux alentours de 60 à 80 morts par million d'habitants. On est très loin évidemment de l'Europe. Ensuite, vous avez l'Asie du Sud, c'est-à-dire l'Inde, le Pakistan, etc. Et là, on est au-dessus, on est aux alentours de 90. Donc, au fur et à mesure qu'on va vers l'Europe, je dirais que les courbes montent. Donc, il y a un choc sanitaire qui est assez différent, qui est géré également de façon très différente et qui va avoir donc des conséquences économiques très 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 différentes entre ces trois, pour, j'ai pas parlé de l'Asie centrale, vous m'excuserez, donc j'écarte l'Asie centrale, donc entre ces trois Asies, Asie du Nord-Est, Asie du Sud-Est et Asie du Sud, on a trois configurations très différentes.
Parmi les pays qui ont le mieux géré la pandémie, il y a une petite île, Taïwan.
Il est à noter que Taïwan n'a jamais été confiné et que la croissance économique s'est maintenue à un taux de 1,5% pour cette année. Taïwan est également séparé de la Chine par un détroit large de 150 km et les échanges de part et d'autre sont denses. 40% des échanges commerciaux de Taïwan se font avec la Chine. En 2019, 2,7 millions de Chinois se sont déplacés à Taïwan pour tourisme et chaque année, 4 millions de Taïwanais voyagent en Chine. Pourtant, depuis l'apparition du Covid-19, Taïwan n'a recensé à ce jour que 495 cas confirmés. 7 personnes sont décédées et 13 personnes sont actuellement à l'hôpital pour une mise en quarantaine.
Le représentant de Taïwan en France lors d'une audition au Sénat, c'était début septembre. Baïchou, comment expliquer que Taïwan, mais également la Corée du Sud, ait réussi à limiter à ce point les conséquences sanitaires, mais aussi économiques du virus?
Alors, D'abord, sur le pourquoi de cette gestion de crise sanitaire qui est exemplaire en Corée du Sud et à Taïwan, je pense qu'il y a des experts de santé publique ou encore des sociologues qui arrivent à les expliquer beaucoup mieux que moi. Alors, en ce qui concerne, donc, ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a quand même une culture assez différente dans tout ce qui est le traçage des contacts, dans tout ce qui est la mise en place de tests massifs. Et que je sache, c'est qu'en Corée du Sud et à Taïwan, ils ont mis dans tout au début de cette crise des tests assez disponibles auprès de leur population, et ce qui a permis déjà de mesurer l'ampleur de leur crise. Et puis ensuite, avec des outils digitaux mis en place pour tracer les déplacements et les contacts des cas suspects, et là, ils arrivent à mieux limiter la propagation de cette crise-là. Et puis, nous avons quand même une culture. Alors, vous m'excusez, je vais utiliser encore une fois le mot de Jean-Joseph Boileau, confucianiste, et donc ce qui veut dire un respect vis-à-vis de la hiérarchie, un respect vis-à-vis de cet appareil étatique qui est quand même relativement beaucoup plus élevé que dans nos pays occidentaux. Donc il y a tout ça qui explique pourquoi cette crise a été beaucoup plus limitée dans ces régions que dans d'autres.
Mais cela dit, pour ce qui concerne l'économie, on peut s'étonner que Taïwan, comme la Corée du Sud, Jean-Joseph Boileau, ait réussi à préserver leurs économies justement dans un contexte de fort ralentissement du commerce mondial, alors même que ce sont deux pays très dépendants des exportations.
Alors, si vous regardez les données du commerce mondial, là encore, globalement, il y a un choc. Il y a un choc comparable à celui de 2008. En réalité, si vous prenez les données sectorielles, vous vous apercevez que, c'est incroyable, mais c'est un fait, il y a une sorte de positionnement de cette Asie du Nord-Est, donc je parle bien de l'Asie du Nord-Est, Japon, Corée, Taïwan, etc., sur ce qui est resté dans le commerce mondial comme le cœur de cette locomotive, c'est-à-dire à la fois tout ce qui est lié autour du sanitaire. Et on sait que les exportations chinoises caracolent aujourd'hui en tête du commerce mondial, 75 à 80% des exportations mondiales de sanitaires. La Chine a augmenté sa part de marché. Et enfin, l'électronique. Or, la Chine n'a pas d'autonomie dans l'électronique. Elle est dépendante à la fois du Japon pour ce qui est des semi-conducteurs, la Corée pour les écrans et Taïwan pour les semi-conducteurs également. Et donc le circuit intégré, on va faire un jeu de mots, le circuit intégré confucéen, donc Confucius et l'ordinateur ont permis très largement à ces pays-là à la fois de faire face aux défis sanitaires, comme il a été dit tout à l'heure par Anjou, et d'autre part aux défis économiques.
Il faut rappeler en effet que la Corée du Sud héberge de grands fleurons de l'industrie technologique comme Samsung ou LG, et que son premier plan de relance avait mis l'accent sur les technologies numériques, robots et drones notamment. Mais effectivement, comme vous le dites, Jean-Joseph Boileau, le pays qui tire peut-être le mieux son épingle du jeu, c'est la Chine.
Lorsqu'une catastrophe frappe à un endroit, l'aide vient de tous les milieux. La Chine a mobilisé l'ensemble du pays et mené un sauvetage sans précédent. En une dizaine de jours, des hôpitaux de Lei Shenshan et Roi Shenshan ont été construits. 16 hôpitaux temporaires ont été convertis à partir de stades et de centres d'exposition. 19 provinces et villes ont offert de l'aide à 16 villes du Hubei. Le meilleur personnel et l'équipement le plus avancé ont été envoyés. En peu de temps, la fourniture de matériel médical et de matériel a été en mesure de répondre à la demande. Tous les secteurs de la société ont fait leur part.
Le président chinois Xi Jinping, c'était le 8 septembre dernier. Alors, la Chine se félicite de son bilan sanitaire. Elle peut aussi s'enorgueillir de ses performances économiques, puisque selon le Bureau national des statistiques du pays, le PIB chinois a bondi de 4,9% au troisième trimestre. Comment est-ce qu'on explique un tel coup d'accélérateur, Jean-Joseph Boileau ?
On manque un peu de recul pour les composantes qui tire la croissance chinoise. D'après les trois indicateurs provisoires dont on dispose, on va dire que d'une part, même si Pékin n'a pas beaucoup parlé de cela, il y a un véritable plan de stimulation de l'investissement. Pour les gens qui vivent en Chine, ils rapportent tous qu'en gros, assez rapidement, les constructions, le bâtiment, les chemins de fer, etc., tout ça, ça a repris. Et on voit effectivement se déformer le produit intérieur brut encore un peu plus en faveur de l'investissement pour compenser le fait que globalement, les exportations sont quand même en recul, n'est-ce pas ? Le deuxième élément, c'est la demande interne. Et alors, il y a quelque chose qui est très important à comprendre. C'est tout à l'heure on a dit les exportations, la Chine et l'Asie du Nord-Est s'en est bien sortie. Oui, mais si vous regardez le tourisme qui était extraordinairement extraverti il y a encore une dizaine d'années en Chine, la relance du marché domestique s'explique moins par la consommation des ménages proprement dite que par l'extraordinaire import-substitution dans le domaine touristique. Et notamment, c'est d'ailleurs un hasard qui n'est pas inintéressant, vous savez comme moi qu'on accuse Pékin d'avoir retardé la formation sur le déclenchement de cette épidémie, et en particulier d'avoir tardé à prendre des mesures, et parce qu'on était juste en période de Chinese New Year, le nouvel an chinois.
Avec des circulations massives dans le pays.
Massives, et puis consommation, et on fait des cadeaux, etc. De sorte que je regarde les données de janvier-février en Chine, en termes de consommation, elle a extrêmement bien résisté. Et enfin, tout récemment, il y a 15 jours, c'est le festival de la nouvelle lune, et là c'est pareil, la Chine a décrété que c'était la fin du Covid, et vous avez presque 1 milliard de Chinois qui sont partis, et ça fait tourner l'économie. Donc on a une économie de plus en plus tournée vers les services, et dans les services, vers les services touristiques. La pauvre France, qui s'attendait à avoir de plus en plus de touristes chinois, voit pour l'instant s'évaporer ce tourisme-là au profit d'un tourisme intérieur que les autorités chinoises, depuis une quinzaine d'années, ont fortement développé. Quand je suis allé en Chine, il n'y a pas si longtemps, pour 2 mois, je n'ai cessé de couvrir des villes dans lesquelles toutes les installations touristiques avaient été réhabilitées ou étaient en voie de réhabilitation.
Voilà. Donc des mesures pour stimuler l'investissement, pour stimuler la consommation, mais cette forte croissance a tout de même une contrepartie, Baïchou, c'est la forte hausse du chômage en Chine.
Bien évidemment, c'est que lorsque le gouvernement mise en place des plans stimulus de façon classique, lorsque on dit classique, c'est parce que c'est un plan stimulus qui est basé sur l'investissement. Et donc l'investissement, tout d'abord, mis en place par les gouvernements locaux via des entreprises étatiques. Donc là ici, on voit que l'emploi dans le secteur public est plutôt bien préservé. Alors par contre, ce qui est un peu laissé de côté dans un premier temps, donc au début de la mise en place du plan stimulus, ben, il y a forcément une montée massive du chômage dans le secteur privé, notamment dans le secteur des exportations, lorsque les exportations ne sont pas encore reprises. Sauf que comme la Chine, elle a très bien géré cette crise sanitaire et que donc dès le mois d'avril et on va dire le mois de mai pour être sûr, le commerce extérieur de la Chine a repris de façon extraordinaire. On voit une croissance par rapport à l'année dernière, hein, donc un taux de croissance qui est proche de 5%, 6% et dernièrement proche de 9% de croissance pour les exportations chinoises, qui fait que cette montée de chômage dans un premier temps de cette crise sanitaire dans le secteur privé, notamment dans le secteur des exportations, est rapidement absorbée par la reprise de la dynamique des exportations. Et dans la zone côtière de la Chine aujourd'hui, on parle des difficultés de trouver des travailleurs, tellement l'activité est dynamique.
Donc on voit qu'il y a effectivement des disparités importantes entre les différentes régions. Si on finit un petit peu notre tour d'horizon de ce nord-est de l'Asie, il y a peut-être une exception à toutes ces réussites que l'on vient de détailler. C'est le Japon, Baïchou, qui a du mal à faire repartir sa croissance aujourd'hui.
Alors, le Japon, c'est une société qui est assez particulière du reste de l'Asie parce que d'abord, c'est le pays le plus développé de l'Asie en termes de PIB par tête, en termes de revenus par habitant. Et le Japon, c'est une société vieillissante. Et culturellement, c'est une population qui est extrêmement précautionneuse. Donc, lorsque chaque fois il y a une crise, donc une crise que ce soit de nature économique ou pas, ça frappe tout de suite, assez rapidement, la confiance des ménages. Donc aujourd'hui, ce qu'on constate au Japon, c'est que non seulement la confiance des ménages a été frappée par la hausse du taux de TVA qui a eu lieu en fin 2019, donc avant l'arrivée de la crise, donc une confiance des ménages déjà moyennement bien orientée, et puis arrivait tout de suite cette crise sanitaire, et donc cette très faible confiance des ménages explique la contraction de la consommation des ménages, ce qui explique une croissance extrêmement molle au Japon.
Mais alors globalement, dans cette Asie du Nord-Est, on l'a dit, on a assisté à une bonne gestion de la crise sanitaire et à une bonne résistance à la crise économique. Et alors si on se dirige maintenant vers l'Inde, en revanche, ce que l'on observe, c'est que le confinement a entraîné une chute spectaculaire du PIB avec des conséquences dramatiques pour les plus pauvres.
Il n'y a absolument plus de riz, plus de farine chez nous. Dans les prochaines semaines, eh bien nous ferons ce que nous pourrons et peut-être que nous allons mourir de faim à cause de notre gouvernement.
Est-ce que le Premier ministre pourrait nous aider avec un peu d'argent ou de nourriture, juste un peu d'aide? Non. Au lieu de cela, il nous envoie la police et nous sommes frappés si nous sortons de nos maisons.
La police arrive! La police arrive!
La police arrive! Courez!
Ils ont fait de nous des prisonniers en nous enfermant avec ce confinement. Nous n'avons rien à manger. Pourquoi le gouvernement a-t-il fait cela? Ils nous disent que nous allons recevoir de la nourriture. Mais elle est où? Où est l'huile, le riz, la farine? Personne n'aide les pauvres. Partout où je vais, la police me frappe. Ils ne nous laissent pas dormir, ni même boire de l'eau. Est-ce que je suis un être humain ou un animal ?
J'avais une belle vie. Et tout à coup, moi et mes enfants, nous avons perdu nos emplois. Tout a fermé. Nous n'avions plus aucun moyen de subsistance. Qu'allons-nous manger ? Nous ne possédons rien ici. Nous louions un appartement. Mais comment pourrions-nous maintenant payer le loyer ? Donc nous retournons au village avec nos enfants.
Ici, au moins, nous mourrons de toute façon, soit de faim, soit du coronavirus. Dans ces conditions, mieux vaut rentrer au village. Là-bas, au moins, nos proches pourront nous enterrer dignement.
Voilà des témoignages très forts recueillis en avril par nos confrères de France 2 pour le magazine Envoyé spécial. Le confinement de l'Inde a eu des conséquences économiques et sociales catastrophiques, Jean-Joseph Boileau.
Écoutez, je me méfie beaucoup de cette façon de présenter le cas indien. Vous savez, tous en tête ces divinités indiennes aux multiples bras. Je pense que c'est quelque chose qui se rapproche un peu plus de la bonne façon d'analyser la crise en Inde. C'est à la fois une crise chaotique, déclenchée en particulier par un régime nationaliste qui trône à New Delhi et est plus obsédé par la chasse aux musulmans que par le bien-être du pays, de sorte que on a en quelques semaines vu des millions de gens retourner dans leur village. En même temps, si vous regardez le bilan à la fois sanitaire ou la façon dont c'est vécu dans les villes moyennes et les villages, on a une résistance organique. J'aime bien cette expression. La société indienne est organique, alors qu'effectivement, dans le cas de l'Asie du Nord-Est, on l'a vu, on est plutôt dans un ensemble confucéen où la morale publique joue un rôle central et où la collectivité joue un rôle central. Dans le cas de l'Inde, on a eu d'extraordinaires exemples de résistance organique qui fait que l'agriculture locale est a permis au travers des circuits courts de fournir de quoi manger à la population, et on a par contre, c'est vrai, une augmentation du taux de pauvreté qui revient à des niveaux sans précédent, de l'ordre de 40% de la population indienne, parce que toute cette population qui n'était pas insérée dans des réseaux de proximité n'a pas été soutenue du tout par l'État central à New Delhi.
Donc, oui, puis il faut dire que l'économie indienne traversait déjà une mauvaise passe, Jean-Joseph Boileau.
Voilà, c'est ça. Mmh. On n'était pas du tout, comme dans le cas de la Chine ou de l'Asie du Nord-Est, sur un train de croissance forte. On avait, vous voyez, en 2019, vous aviez une croissance en Chine qui était de l'ordre de 6-6,5%. Dans le cas de l'Inde, on était déjà en train de baisser aux alentours de 4, et tout le monde croisait les doigts pour ne pas avoir de récession, vous voyez, avant même le Covid. Donc c'est un choc sur un trend qui est celui de la politique économique du régime nationaliste, qui est extrêmement détestable. Mais je répète, on a en même temps des bonnes nouvelles dans le cas de l'Inde, c'est-à-dire que le modèle économique indien se retrouve dans ce qui en fait sa force, c'est-à-dire l'économie de proximité, les réseaux de solidarité locale, notamment une médecine, si on prend l'exemple du Kerala, vous avez une gestion du Covid absolument remarquable, intelligente, donc ce qu'on appelle aussi les innovations de Jugad. Donc je dirais, attention, dans le cas de l'Inde, ce n'est pas tout noir non plus.
Mais ce qui peut inquiéter, c'est que l'Inde occupe aujourd'hui la deuxième place derrière les États-Unis en termes de nombre de contaminations, et puis son PIB a chuté de 24% au deuxième trimestre. Ça, c'était une chute historique, Baïchou.
Ah non, pardon, vous avez raison, 24% le deuxième trimestre.
Deuxième trimestre, oui. Baïchou, le gouvernement indien essaye aujourd'hui de stimuler la consommation pour essayer de répondre à la crise.
Alors, le gouvernement a essayé de stimuler la croissance à travers une mise en place de plans stimulus qui a été annoncé avec des chiffres extrêmement importants, au plus de 20% du PIB. Mais lorsqu'on regarde les vraies dépenses de l'État pour stimuler la croissance, ces efforts-là ne comptent que moins de 2% du PIB. Alors, ça révèle quelque chose. Ça révèle le fait que le secteur public, le gouvernement, a très peu de marge de manœuvre pour soutenir sa croissance. Donc, je rappelle ici que la dette publique de l'Inde, le ratio de la dette publique sur le PIB avant la crise Covid était déjà à 70% du PIB et qu'après cette crise Covid, donc toutes les prévisions se convergent vers un ratio qui est aux alentours de 90%.
Mais est-ce qu'en France, ce ne sera pas du 120% du PIB qui nous attend, Baïchou?
Alors, sauf que l'Inde, c'est un pays émergent. Hein, donc, lorsqu'on regarde un pays émergent avec une dette aussi élevée, donc un gouvernement qui a du mal à vraiment mettre des efforts réels pour soutenir sa croissance, et que lorsqu'on regarde la chute des recettes de l'État et surtout une dépense qui est inexorable pour payer les intérêts sur les dettes déjà accumulées, donc là, c'est un handicap pour soutenir la reprise. Et puis surtout, je rappelle que le système financier en Inde est aussi vulnérable. Donc avant la crise Covid, il y a déjà eu une série de défauts dans son système non bancaire, donc les institutions financières non bancaires. Et puis ensuite, juste avant la crise Covid, il y a eu la reprise de la quatrième banque privée qui s'appelle Yes Bank par la banque centrale. Et donc déjà, on a un système financier qui fonctionne très mal. Et puis donc là aujourd'hui on essaye de reposer les efforts de soutenir la croissance sur les épaules des banques publiques, sauf que les banques publiques qui représentent 60% des actifs de l'ensemble du système bancaire, eux-mêmes ils ont un ratio de prêts non performants qui est supérieur à 10%. Alors, évidemment, ce système financier n'est pas au bord d'une crise systémique, mais par contre, la capacité de ce système financier pour soutenir la croissance, pour soutenir la reprise, elle est extrêmement limitée. La reprise ne sera pas là. Et si la reprise ne sera pas suffisamment là, donc ça va peser encore une fois sur le secteur, sur la finance de l'État, et d'une part, et puis d'autre part, l'accumulation des actifs non performants dans les banques publiques vont être un risque contingent aux finances publiques, puisque le besoin de recapitalisation des banques publiques sera très élevé.
Jean-Joseph Boileau, vous partagez cette idée d'une marge de manœuvre trop faible en Inde pour permettre une reprise à l'heure actuelle ?
Non. Il y a un risque, oui. En même temps, c'est une façon de plaquer le schéma chinois sur le schéma indien, et ça ne marche pas. Le schéma indien est tout à fait différent. Comme je vous le disais, la gestion a été effectivement chaotique, mais un homme célèbre, un économiste d'ailleurs célèbre, qui avait été ambassadeur en Inde, parlait d'une anarchie organisée dans le cas de l'Inde. Et il s'avère que cette façon de gérer la crise épidémique, je parle bien de la crise épidémique, montre un phénomène assez surprenant, c'est-à-dire ce qu'on appelle un taux d'immunisation collective qui est le plus élevé au monde quasiment. Donc on a une grande inconnue qui est de savoir ce que ce Covid-19 a dans la tête. Est-ce qu'il est vraiment fatal pour tout le monde, ou est-ce que des stratégies d'immunisation collective fonctionnent? Si tel est le cas, on a évidemment, dans le cas indien, une réponse qui va être très différente, parce que d'un côté, en Chine, vous n'avez personne qui est immunisé. C'est, je dirais, d'une certaine façon, la très grande faiblesse du schéma chinois. Les gens ne sont pas immunisés. Et si on trouve un vaccin, ça sera le vaccin pour ce Covid-là, mais pas pour les autres. Dans le cas de l'immunisation collective, c'est l'organisme qui se renforce collectivement.
Donc plus de résilience, peut-être, du côté de l'Inde. Oui, Jean-Joseph Ballot.
Oui, c'est la vraie question qui est posée, la résilience de long terme. Et deuxièmement, on a quand même tout un ensemble d'indices là de ces dernières semaines qui montrent qu'on a plutôt un profil en V, c'est-à-dire un rebond extrêmement fort de la croissance indienne. Pourquoi ? Parce que dans l'arbitrage entre le nombre de décès et la reprise de la vie économique, on a plutôt progressivement été vers la reprise de la croissance économique, et qu'effectivement, on a tout un ensemble de signaux qui montrent que la croissance indienne pourrait un peu repartir. Maintenant, structurellement, le modèle de développement économique indien est en cause, et ça c'est vrai que nous en parlerons peut-être tout à l'heure, la crise va changer complètement le profil de développement de l'ensemble de ces pays, et notamment de l'Inde.
Et la crise va aussi changer peut-être le rapport de l'Asie du Sud-Est et plus largement des voisins asiatiques de la Chine avec le géant chinois, on en parle dans un instant. Phare de la scène indépendante chinoise, une ode à leur ville d'origine, Lanzhou, située au nord-ouest de la Chine. Vous écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, et nous sommes toujours en compagnie des économistes Jean-Joseph Boileau et Beichou pour parler de l'Asie face au Covid. Alors la crise du coronavirus peut-elle bouleverser les équilibres dans la région? Ce qu'on peut dire déjà, c'est que les pays voisins de la Chine ont peut-être pris conscience avec la pandémie de leur dépendance envers la deuxième économie mondiale, comme nous-mêmes en Europe, nous en avons pris conscience, Beichou.
Oui, certainement. C'est-à-dire, je pense que c'est déjà une prise de conscience qui date peut-être d'avant la crise Covid et que la crise Covid ne fait que accentuer cette chose. De l'année en année, lorsqu'on regarde la dépendance de la croissance chinoise de différents pays asiatiques, donc depuis une décennie, on ne voit que cette dépendance augmenter. Alors ici, je ne parle pas des exportations de ces pays vers la Chine qui pourraient être faussées par l'éclatement de la chaîne de valeur dans la région asiatique. Je parle vraiment des exportations de ces pays-là pour servir la demande finale de la Chine. Mmh. Et donc, évidemment, le pays ou la région le plus exposée à la croissance chinoise, c'est les producteurs des produits électroniques. Donc, on voit Taïwan, donc en premier lieu, donc qui a 14% de son PIB directement exposé à la croissance chinoise, la Corée du Sud presque 8% de son PIB, et puis ensuite on remarque aussi que même la Malaisie est exposée à la croissance chinoise à la hauteur de 9% de son PIB. Donc c'est énorme.
Et ce qui est intéressant, c'est que est soulevé dans ces différents pays la question de la relocalisation. Le Japon a été l'un des premiers à proposer, dans le cadre de son plan de relance, une enveloppe de 248 milliards de yens pour les sociétés nippones qui souhaitaient rapatrier dans l'archipel des lignes de production situées en Chine. Est-ce qu'on observe une tendance ou au moins une volonté de relocalisation dans certains pays asiatiques, Jean-Joseph Boileau?
Oh oui, je crois que c'est ça qui va ressortir de la crise actuelle. Dès lors que finalement l'Asie se retrouve un peu seule par rapport au reste du monde qui a beaucoup de mal à s'en sortir. Je ne parle pas des États-Unis qui ont découplé de facto de la Chine depuis quelques années. Et là, ça va s'accentuer, je pense, quel que soit le scénario. Trump ou pas Trump. On a donc l'émergence d'une superpuissance chinoise qui, comme ça a été dit tout à l'heure, a montré qu'elle avait une capacité désormais d'influence directe sur non seulement le politique, mais aussi l'économique de tous ces pays. Et je vois se multiplier maintenant tout un ensemble de signes. Vous avez vu dans ma tribune, dans ma chronique pour Alternative économique, je disais que le mot-clé, c'est la relocalisation. Je pense que c'est ce à quoi, effectivement, on va assister dans les prochaines années.
Mais vous dites aussi que c'est une tendance qui est déjà à l'œuvre depuis quelque temps, cette tendance à se recentrer sur leur marché intérieur.
Comme toujours, les crises sont des moments, si vous voulez, où tout simplement il y a une accélération des tendances préexistantes. Donc on avait déjà observé depuis la crise de 2008 dans les pays développés, de la crise de 2011 dans les pays en voie de développement, on avait déjà observé ce mouvement de relocalisation et en fait de contestation, de crise de l'ancienne mondialisation. Et la question climatique d'ailleurs ne fait qu'accentuer cette perception qu'il y a quelque chose dans le système qui n'allait pas. Donc la grande globalisation qui a permis à la Chine d'émerger et au Made in China d'être un peu au centre de l'économie mondiale, c'est ça qui est en train, je pense, de basculer, même si ça s'était enclenché il y a quelque temps et la crise le révèle. Mmh. On a dans le cas de Taïwan, ça va être très clair. Cette dépendance qui a été signalée tout à l'heure, bien sûr, va rester parce que là, on a on est à quelques kilomètres des côtes, les Taïwanais ont investi en Chine, etc. Mais je vois que toutes les annonces du gouvernement taïwanais consistent à diversifier non seulement ses partenaires, mais aussi en termes local. Hein, il y a une relocalisation au sens vraiment propre du terme, c'est-à-dire que les nouvelles façons de consommer, le nouveau tourisme, etc., améliorent, si vous voulez, la proximité. Enfin, l'Inde est dans une relation antagonique avec la Chine, là, c'est très clair. À l'occasion de cette crise, il y a eu la crise aussi aux frontières. Et là, il y a eu des objets made in China qui ont été brûlés. Et on voit bien que l'Inde, qui est le grand marché potentiel pour la Chine, puisqu'il y a 1,5 milliard d'habitants, l'Inde est en train, là, très clairement, de tourner le dos à la Chine.
Alors, on comprend bien les arguments qui peuvent être mobilisés pour délocaliser des lignes de production situées en Chine, les relocaliser sur un territoire national. Il y a évidemment la hausse des coûts de production en Chine, notamment l'augmentation du coût de la main-d'œuvre. Il y a aussi la guerre commerciale qui se poursuit entre Washington et Pékin. Pour autant, est-ce qu'on va assister véritablement à des mouvements importants, selon vous, Beichou, sachant que, évidemment, pour pouvoir se séparer ou s'affranchir du gigantesque marché chinois, qui reste l'un des plus dynamiques au monde, il faut avoir un marché intérieur suffisamment conséquent, du côté de l'Inde, évidemment, on l'observe, mais ce n'est pas le cas pour tous les pays de la région.
Mais vous venez de dire quelque chose de très important, c'est le gigantesque marché chinois. Aujourd'hui, le PIB chinois est déjà très proche de 20% du PIB mondial, donc c'est un marché qu'on a du mal à ignorer, et notamment pour les petits pays asiatiques qui sont les voisins de la Chine. Donc on peut délocaliser les capacités de production de la Chine, mais la Chine reste un client final très important pour Taïwan, Corée, le Japon ou pour les entreprises de l'Europe ou encore des États-Unis. Donc, lorsqu'on regarde des enquêtes extrêmement récentes qui sont sorties en septembre 2020, la Chambre de commerce américaine est basée en Chine, a fait une enquête pour savoir quelles sont les intentions des entreprises américaines vis-à-vis de l'investissement en Chine. Alors, 70% d'entreprises ont répondu qu'ils n'ont pas d'intention de quitter la Chine. Alors, on retrouve quasiment la même chose auprès des entreprises européennes qui ont répondu à une enquête similaire.
Notamment parce que la Chine dispose de meilleures infrastructures que l'Inde, par exemple, Beichou.
Alors là, effectivement, l'autre côté de la pièce de tous ces plans stimulus basés sur l'investissement que la Chine a déjà mis en place, c'est que il y a des infrastructures qui sont extrêmement bien connectées en Chine, même pour la Chine profonde. Donc même si ça alourdit le ratio de la dette sur PIB, mais les infrastructures sont là ce sont matériellement, ils sont matériellement là. Donc, ce qui évidemment réduit le coût de production et améliore l'efficacité de production. Et puis, lorsqu'on regarde les raisons pour lesquelles les entreprises restent en Chine, mis à part le marché chinois, mis à part le rendement sur investissement, il y a aussi un élément qui est très important, qui est la chaîne de valeur, qui est le supply chain. Et en Chine, ils trouvent l'ensemble de supply chain extrêmement efficient.
Alors effectivement, il y a cette dépendance extrêmement importante des pays de la région à l'égard de la Chine, et en même temps cette dépendance qui inquiète de plus en plus à mesure que l'expansionnisme chinois se fait jour, à commencer évidemment par Taïwan, qui est l'un des pays les plus inquiets de la région.
Depuis le 2 janvier de l'année dernière, les exercices militaires de la Chine se sont intensifiés dans la région de Taïwan. Je vais vous donner des exemples des menaces militaires qui pèsent sur Taïwan. Le 10 août, la Chine a envoyé des avions de chasse au-delà de la ligne médiane du détroit de Taïwan, au nord, au milieu et vers le sud. C'est une menace de taille. Alors que la ligne médiane du détroit de Taïwan, c'est ce qui permet de garantir la paix et le respect mutuel dans la région. Ensuite, les 9 et 10 septembre, c'est mon deuxième exemple. La Chine a mené des manœuvres militaires de grande ampleur au sud de Taïwan. Et à de nombreuses reprises, des avions de chasse, des drones et des avions de reconnaissance ont traversé la zone d'identification de défense aérienne. Et il y a eu 30 incursions dans cette zone.
Le ministre taïwanais des Affaires étrangères, Joseph Wu, dans un entretien réalisé par France 24 le 20 septembre dernier, face aux velléités de domination de la Chine, les pays asiatiques cherchent à se rapprocher à travers des accords économiques, mais aussi politiques et militaires, Jean-Joseph Boileau.
Oui, c'est assez clair qu'on ne peut pas, là, en termes purement économiques, comprendre les transformations vers lesquelles on va. Je disais donc que la globalisation, en gros, des années 80-2010, autour du Made in China, c'est évident que ça a été l'usine du monde, prend aujourd'hui des formes qui sont, est-ce que le monde veut ou pas rentrer à l'intérieur de ce concept qu'on appelle Tianxian, qui est le toit du monde, et qui est la globalisation, non plus du Made in China, mais du Made by China. Eh bien, c'est clair que non. Je veux dire par là que l'efficacité avec laquelle l'épidémie a été traitée en Chine est sans doute du confucianisme, mais du confucianisme totalitaire. Et le reste de l'Asie, celle qui est confucianiste, n'est pas du confucianisme totalitaire. Et d'autre part, l'Inde n'est évidemment pas du tout à l'intérieur de ce schéma-là. Donc, au contraire, c'est le paradoxe de la Chine. Le succès de la stratégie Deng Xiaoping se traduit par le fait qu'aujourd'hui, la Chine fait peur. Et c'est ce que je disais dans ma chronique dans les Échos, cette fois-ci, il y a 2-3 mois. C'est le paradoxe du succès de traitement de la crise du Covid par la Chine, c'est que désormais, plus personne ne veut de ce modèle d'État. Même s'il apparaît extrêmement efficace, il apparaît extrêmement pernicieux et il fait peur. Même la Thaïlande, et alors mon interlocutrice a raison de dire que la masse chinoise est telle que c'est pas du, l'Asie va pas se passer de la Chine, mais elle va tout faire et elle fait tout pour s'autonomiser. Alors sur un plan économique, on va prendre un exemple. Le Vietnam tire remarquablement ces cartes de la perte des parts de marché chinoises de ces dernières années. Dans le cas de la chaussure, par exemple, la Chine a perdu de l'ordre de 7 à 10% de parts de marché mondiales, et le grand gagnant, ça a été par exemple le Vietnam. On oublie le cas du Bangladesh. L'économie du Bangladesh, ça n'a pas été suffisamment souligné, mais le FMI l'a souligné, présente des prouesses économiques, enfin qui d'ailleurs font peur à l'Inde, parce que l'Inde a des performances économiques bien moins bonnes. Or, le Bangladesh est le pays qui a tiré parti de la relocalisation du Made in China vers le reste du monde.
Donc on a des pays qui profitent. Alors, je vous laisse finir, Joseph Boileau.
Non. Et dernière chose, le paradigme économique de l'après-crise ne sera pas du tout le même que celui de l'avant-crise. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des niveaux de modernisation avec des robots, des processus technologiques ultra modernes qui font que l'avantage de la Chine n'est plus du tout avéré. Donc si les entreprises veulent rester en Chine, et c'est vrai que les entreprises occidentales, même américaines, veulent rester en Chine, c'est pour le marché chinois et ça n'est plus du tout dans une perspective qui était la délocalisation mondiale vers le Made in China. Et bien en Asie, on se réorganise autour de ça.
L'un des enjeux de la domination chinoise, de sa puissance dans la région, Beishu, ce sont évidemment les routes de la soie, les nouvelles routes de la soie, mais aussi le futur réseau ferroviaire panasiatique. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ce sujet, Beishu, et sur effectivement ce qu'on est en train de se dire avec Jean-Joseph Boileau, cette Chine qui apparaît à la fois comme une menace militaire et à la fois comme un partenaire économique difficilement contournable.
Alors, donc on a mis un peu de temps pour parler du commerce des biens, donc entre la Chine et le reste du monde, ou intra-asiatique, pour parler de la dépendance économique de cette région-là. Et ben, il est venu le moment de parler justement des exportations de capitaux. Et la route de la soie que vous venez de mentionner est justement un exemple de l'exportation des capitaux chinois vers le reste du monde. L'ambition de la Chine, c'est pas de rester éternellement un made in China partout, hein, c'est pas du tout ça, c'est pas pour produire tous les biens du monde. La Chine sait très bien que de toute façon, le coût de production, notamment le coût de main-d'œuvre, augmente. C'est pas la peine du tout de garder toutes ces productions en Chine. Et la Chine envisage aussi dans la transition énergétique, etc. Et donc, la Chine aujourd'hui, elle veut juste garder tout ce qui est production haut de gamme dans son pays afin de pouvoir monter en gamme dans l'industrie et afin de développer les services, etc. Et donc, le parallèle de ce mouvement-là, c'est que la Chine, elle commence à vouloir exporter les capitaux. Et donc, il se trouve que dans la région asiatique, il y a un manque de financement, donc un manque de capitaux dans le domaine d'infrastructure. Donc, la Banque de développement asiatique estime que le manque de financement dans ce domaine, donc annuel, c'est de 800 milliards de dollars.
Donc, ce que vous nous dites, c'est que l'Asie du Sud-Est a besoin des capitaux chinois.
Exactement. Tout à fait. Donc, lorsqu'on met en face un besoin de capitaux et puis un fournisseur de capitaux qui a une ambition de vouloir marquer sa présence, hein, une ambition de vouloir exporter ses capitaux, on voit ce qui va arriver. Donc, ça, c'est exactement donc cette phase de déploiement du projet de route de la soie. Alors, évidemment, aujourd'hui, on voit ce mouvement ralentir, mais je pense que c'est un mouvement qui est long et qui serait structurel.
Mais c'est bien cette tension entre d'un côté la menace militaire que représente la Chine et d'un côté ce besoin de capitaux qui explique, Jean-Joseph Boileau, aujourd'hui les divisions entre les pays d'Asie du Sud-Est sur la politique à mener face à la Chine. Alors on voit le Japon qui se rapproche de l'Indonésie et du Vietnam, et de l'autre côté la Chine qui renforce son partenariat commercial avec le Cambodge et le Laos. Les cartes sont en train d'être rebattues.
Et oui, on avait avant la globalisation du Made in China une division du travail en Asie qui était organisée par le Japon, Japan number one, vous vous rappelez peut-être ce qui était l'impression qu'on avait dans les années 80, et qui avait délocalisé d'une part progressivement vers la Corée et Taïwan, et ensuite vers les pays du sud-est asiatique, ce qu'on appelait les nouveaux dragons. Ça, c'était l'organisation productive de l'Asie. Ensuite, la Chine a cassé ça et on est rentré dans un circuit intégré dont la Chine était le centre. On est en train d'évoluer, me semble-t-il, vers une volonté de la Chine de dire « moi j'ai de l'argent, j'ai du savoir-faire, c'est moi qui vais construire toutes vos infrastructures ». Et j'observe que elle n'est pas toute seule. Le Japon a de l'argent, il a du savoir-faire, la Corée a de l'argent et du savoir-faire. Et on a des pays comme la Thaïlande qui vient de signer un accord avec la Chine pour le chemin de fer par exemple. Mais vous voyez, il a fallu 4 ans pour arriver à sortir dans les négociations. Et la Thaïlande ne veut pas dépendre de 100% des infrastructures Made in China. Vous avez le Vietnam qui se méfie énormément, bien sûr, de la Chine et qui a des stratégies de partenariat avec y compris l'Europe. La France fait des prouesses aujourd'hui au Vietnam dans le domaine des infrastructures. Vous avez le cas de l'Inde. Et donc, j'ai l'impression que ce qui est la vision de Pékin, si vous voulez, des routes de la soie, on va refaire toutes les infrastructures du monde, se heurte à une réalité de base qui est que personne ne veut rejoindre le grand parapluie, le fameux donc Tianzhai chinois. Et je pense que la relation entre le Japon et l'Indonésie va équilibrer la relation entre la Chine et l'Indonésie. Tout le monde a bien compris que Pékin manie l'arme économique pour des visées géostratégiques en mer de Chine en particulier, et personne ne veut dépendre de cela. Donc on va avoir...
Et le Japon, la personne de son nouveau Premier ministre, Yoshihide Suga, ne compte pas se laisser faire en l'occurrence.
Exactement.
Mais une politique, une diplomatie un peu plus offensive que son prédécesseur peut-être.
Exactement, parce que et je crois que le Japon a compris que le retrait des États-Unis, puisque c'est bien cela qu'on observe depuis quelque temps, malgré tout, sur le plan économique, mais aussi géostratégique, fait que l'Asie va avoir besoin de se prendre en charge beaucoup plus. Et j'observe que les relations entre le Japon et l'Inde, par exemple, donc c'est pas rien, Japon plus Inde, ne cessent de progresser, à la fois sur le plan économique et sur le plan géostratégique, avec la Corée, même chose. La Corée est le premier partenaire asiatique en Inde, par exemple, devant même le Japon. Donc il faudrait faire attention à la vision du monde de Pékin et une vision du monde qui est plus équilibrée. Attention, l'Asie, c'est aussi un monde de gens très pragmatiques. Donc, on n'est pas dans de l'idéologie pure. Donc, là où la Chine va pouvoir aider, eh bien, on va l'utiliser, bien sûr. Mais en même temps, on est dans le monde du yin-yang, de l'équilibre. Et donc, je crois que l'Asie veut absolument maintenir les grands équilibres. Et
maintenir
Pékin
les
va
grands
devoir
équilibres.
Faire avec ça.
On voit qu'il y a effectivement des résistances du côté des pays asiatiques. Et je voudrais vous entendre pour finir là-dessus, Baïchou. La Chine, en même temps, de son côté, essaye peut-être aussi de s'autonomiser vis-à-vis des pays voisins et de se recentrer elle-même sur son marché intérieur?
Alors, elle souhaite bien évidemment développer son marché intérieur pour développer sa demande intérieure. D'ailleurs, ça c'est une composante clé de la nouvelle théorie de croissance que le président Xi Jinping avait annoncée lors du cinquième plénum qui a eu lieu la semaine dernière de ce qu'il appelle le dual circulation. Alors, bien évidemment, ceci étant dit, sauf que la Chine, enfin, n'importe quelle économie du monde est difficile de se détacher du reste du monde. Donc, il est très difficile, je pense, de nos jours, de se dire on pourrait essayer de créer une autarcie ou gagner en indépendance économique et comme ça, on n'aura plus besoin du reste du monde. Alors, juste, je voudrais...
Très rapidement, on arrive vraiment au terme de l'émission, Baïchou.
Oui. Alors... La Chine, c'est une société vieillissante. Donc, une société vieillissante a forcément une croissance plus faible. Et donc, d'où elle tire ses revenus? Donc, elle a besoin d'investir dans le reste du monde. Et dans le reste du monde où il y a un potentiel de croissance et qui n'est pas très loin de la porte des frontières, c'est bien l'Asie du Sud-Est, l'Asie de l'Est, l'Asie du Sud. Et c'est pour cela que la Chine, elle ne peut pas se détacher de cette région-là, tout comme ce que le Japon fait.
Et c'est pour cela aussi que la Chine
investit pour obtenir des revenus d'investissement.
Et c'est pour ça que la Chine investit également en Afrique depuis longtemps, mais aussi en Amérique latine très largement. Un grand merci à tous les deux, Jean-Joseph Boileau et Baïchou, de nous avoir accompagnés tout au long de cette passionnante émission. Jean-Joseph Boileau, je renvoie les auditeurs à vos articles, on mettra toutes les références sur la page de notre site. Un grand merci à tous les deux. Tout de suite, c'est l'heure du journal de l'écho.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Un journal de l'écho confiné. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Le commerce de détail en pleine ébullition depuis le reconfinement, les petits commerçants mais aussi la grande distribution s'inquiètent de leur avenir économique et dénoncent un traitement inéquitable de la part du gouvernement. Confiner sans léser, c'est l'équation insoluble ?
Eh bien, ce second confinement à l'approche de Noël, en tout cas, est une branche de sapin dans la gorge des petits commerçants qui dénoncent une triple injustice sanitaire, économique et surtout injustice commerciale, puisque pour obtenir une activité plus intense, comme le souhaite Emmanuel Macron, le gouvernement a élargi au maximum la liste des activités essentielles établies en mars lors du premier confinement. Elle inclut par exemple les grossistes, fleurs ou bricolage, mais elle exclut toujours tous les commerces de détail non alimentaires. Alors Bruno Le Maire a beau avoir augmenté les aides à 10 000 euros par mois, le problème n'est pas seulement là pour les petits commerces, commerces de proximité ou de centre-ville, dont les fédérations, en premier lieu les syndicats de libraires, ont dénoncé une rupture d'égalité de traitement face à la concurrence des supermarchés. 200 000 petites surfaces donc reléguées derrière le rideau de fer du libre marché.
Le gouvernement a donc pris le risque d'une rébellion des petits commerçants, Xavier ?
Oui, outre les associations de maires qui réclament une conciliation, voire d'élargir la liste des commerces de première nécessité, et les dizaines d'édiles qui ont déjà pris ce week-end des arrêtés pour réautoriser l'ouverture des petits commerces, les commerçants également résistent. La Fédération des fabricants de jouets, dont 60% des ventes sont faites par les magasins spécialisés, a déjà porté l'affaire devant le Conseil d'État pour violation du principe d'égalité de la concurrence, et la Fédération des entreprises de beauté disait aussi y réfléchir.
Alors pour rétablir la libre concurrence, c'est aux grandes surfaces que les autorités imposent de nouvelles interdictions.
Oui, là, c'est le deuxième compromis trouvé dimanche soir, obliger les grandes surfaces à fermer les rayons qui proposent les mêmes produits que les magasins spécialisés, d'où ces images un peu surréalistes dans un autre contexte de rayons livres barrés de rubalises ou ces discussions dignes d'un traité d'esthétique pour savoir s'il faudrait inclure ou non les produits de beauté dans la liste des produits essentiels, sachant qu'ils sont parfois sur les mêmes rayons que les produits d'hygiène. Mais cette décision entraîne déjà des tensions avec la grande distribution, dont la principale fédération, la FCD, a exprimé sa totale incompréhension et son opposition, et tension également au sein de la distribution, un patron de supermarché déplorant, je le cite, le péché originel de la FNAC qui s'était empressée de fermer d'elle-même vendredi ses rayons culturels sous la pression des librairies. Dans les échos aussi, un adhérent U se désole d'être passé du statut de sauveur de la nation à celui de profiteur et de tueur du petit commerce.
Et finalement, c'est le e-commerce qui pourrait emporter la mise.
Oui, c'est le champ libre à Amazon, regrette la Fédération des distributeurs. La plateforme qui posséderait 45% du marché en ligne du multimédia, culture et loisirs a déjà triplé ses bénéfices au premier confinement et les détaillants ont peu de chances de lutter contre ces 300 millions de références, explique le journal Le Monde. Bruno Le Maire a bien prévu 100 millions d'euros pour faire de ce confinement l'occasion de hausser la numérisation des petites et moyennes entreprises, mais la plateformisation des commerces spécialisés, comme l'expliquait ce matin au Matin de France Culture, le sociologue Vincent Chabot, ne va pas de soi. Beaucoup demandent leur réouverture sur jauge plutôt que le click and collect plus coûteux en manutention et logistique. Et du côté des gros distributeurs, certains évoquent déjà une annulation du Black Friday le 27 novembre pour éviter un trop grand déséquilibre.
Le gouvernement pourrait alors faire un nouveau compromis ?
Et oui, car s'il y a un psychodrame particulier du petit commerce français en Europe, comme le titre un article des Échos, c'est aussi parce que la méthode du gouvernement de lister les produits essentiels est celle qui conduit au plus de dérogations, car la liste varie en fonction des demandes et pressions. Elle vient d'ailleurs d'être révisée ce matin pour répondre à celle des grandes surfaces. On aura donc droit au maquillage et aux layettes. Alors certains sont sévères. État micromanager de notre quotidien, regrette David Barou dans les Échos, ou triomphe éphémère d'un New Public Management toujours plus raffiné, analyse Michel Roca dans The Conversation. Concilier sur le PowerPoint protection sanitaire, activité économique et équité juridique est difficile, mais l'équation est compliquée. Le gouvernement refera le calcul avec peut-être de nouvelles mesures ce jeudi 12 novembre.
Merci beaucoup Xavier Martinet, on vous retrouve demain pour un nouveau journal de l'Écho. Merci à toute l'équipe d'Entendez-vous l'écho, Bruno Barada, Marguerite Caton, Aliette Ovine, Léa Sabourin et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne Depelchin. À la technique aujourd'hui, Edouard Rubinstein. Demain, deuxième épisode de notre série sur le monde émergent, direction le continent africain où les économies locales ont fait preuve d'une grande résilience. On en parlera avec Kako Nubupo et Estelle Braque. En attendant, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France et nous retrouver sur Twitter, sur le compte d'Entendez-vous l'écho.